Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Pour Saint-Pérou, à base de pisco.
Sur place, DoorDash ou Takeout, tu réserves ta place au 418-525-7777. To me!
T-U-M-I!
La nouvelle terrasse en ville.
418-525-7777.
Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis.
Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure
pour votre toiture.
Groupe DBL, qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture, est fier d'être recommandé CAA Québec,
certifié APCHQ
et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
Sacan Distribution, fabricant de caches, climatiseurs et thermopompes au Québec. Embellissez votre espace résidentiel avec les caches thermopompes Sacan. Unique, durable et facile d'installation, ils s'adaptent à tous les modèles du marché tout en minimisant l'impact sonore et en la protégeant aussi des intempéries.
Personnalisable,
ils s'harmonisent avec une large palette de couleurs, plusieurs dimensions et des bandes en aluminium ou en cèdre. Plus la peine de chercher, Sacan a la solution. Plus d'infos au sacandistribution.com ou sur Facebook.
Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h.
À CJMD 96.9, l'Alternative Radio.
Salut, c'est Maman Lise de Lauzon. J'ai gagné 1 200 $ au bingo de CJMD. Yes, sir! 5, 4, 3, 2, 1. Are
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous étiez à l'écoute de la sauce.
J'ai décidé que je le faisais avec toi cette semaine.
C'est cool, man. Écoute, je suis vraiment content. Puis, sais-tu quoi? Le Rage Against the Machine, ça nous met dedans. Puis, écoute, c'est très bientôt, le 16 juillet prochain. Ma soirée, elle est réservée. Le lendemain, il est réservé à que dormir puis d'avoir rêvé à quel beau spectacle qu'on va voir. Ça va être malade. Cool. On a aujourd'hui une personne qui est autant passionnée de Rage Against the Machine que son travail. On reçoit Jessie Labrec, qui est une habituée. Salut Jessie, comment ça va?
Salut, ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Dans le fond, tu es notaire. Tu es une personne avec qui on a fait énormément de transactions. Il y a beaucoup de changements dans le droit notarial qui se passent actuellement. Puis ça fait en sorte qu'on va parler de ça aujourd'hui. Puis je pense que Les changements puis la pandémie a forcé un peu l'évolution de la profession aussi au niveau du droit notarial, dont les signatures électroniques qu'on voit de plus en plus dans les bureaux. Puis on a eu l'occasion d'en parler hors d'onde, là, juste dans notre pré-entrevue, justement, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis aussi des nouvelles pratiques, le droit immobilier, de qu'est-ce qui se passe, etc. Fait que tu sais, ça va être vraiment un beau segment, une belle émission, mais avant toute chose, de où ce que tu es, depuis combien de temps que tu es notaire, quelles sont tes implications globales au niveau de la profession?
En fait, moi, ça fait maintenant 11 ans que je suis notaire. J'ai travaillé 10 ans dans le privé. Fait que je faisais des achats de maison, des refinancements, testaments, mandats, des mariages. J'ai fait un changement de carrière à l'automne dernier, au mois d'août. Je suis rendue maintenant chez Desjardins. Je travaille en conformité. Donc, vraiment plus au niveau de l'application des lois règlements. Donc, c'est quand même assez différent. Par contre, je reste quand même une passionnée là, du notariat. Je m'occupe aussi, je suis présidente de l'Association des jeunes notaires du Québec. Donc, même si je ne suis plus en pratique privée, j'aide quand même les notaires, là, les jeunes, on parle des 15 ans et moins de pratique. On les aide à se placer, on fait des formations, on les accompagne dans divers projets avec la Chambre des notaires. Donc, le notariat reste toujours au cœur de ce que j'aime. Là.
Puis je trouve ça le fun, par exemple, qu'on parle de jeunes notaires au niveau d'expérience, parce que, tu sais, moi, j'avais les cheveux gris comme vieux ou jeune. Ouais. Tu sais, c'est là que je définissais ça. Fait que je suis content de savoir.
15 ans, la ligne. Là. Ouais. Fait que toi, tu es encore une jeune notaire.
Pour
selon
encore
la définition.
Quelques années, oui. Oui.
C'est quoi ton. Mais c'est quoi l'implication? C'est quoi que ça t'amène dans le day-to-day avec les jeunes notaires?
Bien, en fait, moi, personnellement, ça me donne rien. Par contre, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que surtout dans la région de Montréal et les alentours, là, les notaires sont beaucoup en pratique solo. Puis quand les gens sont en pratique solo, on sait que maintenant, il y a beaucoup de compétition dans la pratique. Les notaires se spécialisent. Le fait qu'ils soient solo, ben ça fait en sorte que c'est plus difficile. Fait que quand il y a des questions, ben on fait quoi? À qui on s'adresse? Fait que nous, on est vraiment comme un beau groupe. Pour l'instant, on fonctionne avec une page Facebook, puis on est comme 1200 membres dessus. Là, donc, il y a vraiment de l'échange de documents, du partage d'informations. Puis on donne aussi, là, on essaie de donner des formations là, à moindre coût par des organismes ou même nous-mêmes. Là, puis on a des mentors aussi qui nous accompagnent, qui donnent des conseils. Fait que c'est vraiment.
Ça, c'est chapeauté par la Chambre des notaires. Donc,
non, c'est vraiment une association. On a vraiment parti ça là, en 2016-2017. Il y a eu quelques années, dans le fond, là, que ça a été un peu plus laissé à soi-même. Puis on a vraiment repris l'association, on l'a rebâti. Puis on a des partenariats avec la Chambre. T'sais, par exemple, on fait de la distribution de code civil aux étudiants qui sont au bac puis à la maîtrise. Okay. On peut participer à des congrès, sauf qu'on est vraiment une association indépendante à part entière.
OK. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, le droit notarial a évolué dans les dernières années. Tu sais, il y a eu les manuscrits où ce qu'on était obligé d'aller consulter physiquement les registres pour avoir l'histoire d'une propriété puis de faire une recherche documentaire sur place. Ça a existé, ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça?
Bien, moi, je ne l'ai jamais vécu. Par contre, quand j'ai commencé à pratiquer ce qu'on appelait les BPD, là, les bureaux de la publicité des droits, ça existait encore. Fait qu'on pouvait y aller pour consulter. Puis quand on n'était pas capable d'envoyer des actes électroniques, parce que maintenant, tout ce qui est publication, là, tout se fait de manière électronique, mais on pouvait encore aller les déposer là-bas. Fait que, tu sais, j'ai déjà fait du dépôt de documents, mais je suis jamais, à part dans le cadre de mes études, là, je suis jamais allée consulter, là, mais c'était assez impressionnant de se présenter dans un BPD, là. Maintenant, il n'y en a plus. Ça a tout été centralisé à Québec. Il en restait quelques-uns, puis la pandémie les a vraiment mis à terre, là. Mais il y avait des belles archives là-dedans.
Mais hein, puis tu sais, il y a plusieurs informations vraiment intéressantes. Tu sais, je pense qu'on peut toujours revenir à Guillaume Couture quasiment à quel moment que transféré les terres à son
seigneur.
Ça a
toujours été là, les titres.
Mais au moins, tu sais, ces archives sont encore accessibles. Ouais. Tout a été numérisé. Fait qu'on peut encore aller voir l'historique. C'est juste que c'est pas aussi le fun, on va dire, que d'aller consulter papier. Là. Ça donne toujours un petit quelque chose de plus, mais tout est accessible encore de manière numérique.
Puis dans les changements, justement, il y avait les registres physiques qui ont existé. Après ça, tout a été numérisé, fait qu'on a accès aux registres fonciers. Beau site du gouvernement à venir nous chercher une pièce pour chacun des clics qu'on va avoir, on va se le dire. Puis
après. Très friendly user. Oh. Très 2.0. Faut le dire.
Oui, faut vraiment le dire. Pour l'utiliser régulièrement, constamment et tout le temps. Là, ça fait partie de notre job. Puis arrive un autre changement pendant la pandémie que ça a été mis en place. Ça a été testé avant la pandémie aussi. Là, tu sais, c'était déjà dans les cartons depuis plusieurs années. Par contre, la pandémie a forcé plusieurs affaires à bouger un peu plus rapidement. Puis la Chambre des notaires s'est ajustée à ça. Puis la Chambre des notaires a amené un changement qui, selon moi, est super important. C'est les signatures électroniques qui, maintenant, on peut signer les documents électroniquement avec des notaires qui, auparavant, on ne pouvait pas faire ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça l'amène comme changement au niveau du fonctionnement de l'acte ou des signatures des actes? Parce que, tu sais, initialement, il y avait toujours un échange de clés, il y avait toujours un acheteur, un vendeur en même temps. Tu sais, il y avait quand même une réaction qu'on pouvait filer avec la personne. Tu sais, il y a des fois qu'il y a des séparations qui brassent, puis, tu sais, d'être sur place, de voir les deux personnes, de voir, tu sais, il y en a-tu un qui est mal positionné par rapport à ça. Qu'est-ce que ça a amené comme premier changement, ça, les signatures électroniques, pour vous?
Bien, c'est sûr que les signatures électroniques, comme j'expliquais, ça a des avantages et inconvénients. On en parlait hors d'onde. L'avantage, c'est une plus grande flexibilité. C'est sûr que il y a des notaires qui ont embarqué dedans et des notaires qui n'ont pas embarqué. Puis soit dit en passant, ça faisait longtemps que ça se parlait, là, bien avant la pandémie.
Ben oui.
Les notaires n'étaient pas nécessairement pour ça. Il y en avait oui, il y en avait non, sauf que il y avait encore beaucoup priorité là, sur le contact client. La pandémie, ben, là, a forcé là, le décret finalement là, du gouvernement à accepter là, les signatures électroniques. Pour l'instant, est encore renouvelé, sauf que ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça de manière permanente. Ça, c'est important que les gens le sachent. Là, pour l'instant, c'est encore en vigueur, sauf qu'il n'y a rien qui dit que le gouvernement, à un moment donné, ne mettra pas fin au décret, donc ça ne sera plus permis.
OK, c'est sur décret. C'est ça qui fait que c'est valide.
Tout à fait. Puis c'était stressant pour les notaires pendant la pandémie, là, parce qu'au début, le décret était accepté pour un mois. Fait que là, le mois d'après, il fallait attendre de voir si ça allait être renouvelé. Fait que là, les notaires avaient comme de la misère à prendre leur rendez-vous. Ouais. Puis moi, en étant sur l'association des jeunes notaires, ben, je faisais comme partie d'un comité, justement. Fait qu'on surveillait ça. Puis des fois, on était la veille de la fin du décret, puis on savait même pas s'il était renouvelé.
Quand même, hein? Puis tu sais, nous, à l'interne, comme courtier immobilier, avec la pandémie puis ces moments-là, ben, ça faisait en sorte qu'on avait peut-être une centaine de transactions à venir. Puis là, ben, tu sais, les notaires ne savaient pas trop. Puis là, ils ne voulaient pas prendre de nouveaux rendez-vous. Puis là, tu sais, on était comme, mais les signatures électroniques existent, là, tu sais. Let's go. Let's go, embarquez, puis faites-le. Sauf que ça l'amène une grosse gestion externe, puis une grosse complication, puis un gros changement à l'interne aussi. Puis tu sais, on va se le dire, quand on est dans nos pantoufles, on est confortable.
Ouais, mais en plus, le volume est venu avec ça. T'sais, parce que le volume de transactions est parti en flèche, là, en début de pandémie. Fait que, tu sais, changement de méthode, changement de procédure, puis en plus, un volume. Fait que vous avez dû. Vous avez dû quand même bûcher pour vous.
Il faut s'adapter, puis c'est pas. Tu sais, ça a l'air facile, là. Je veux dire, je me mets à la place des clients de l'autre côté de l'écran. Ça a l'air facile, les signatures électroniques, sauf que nous, de notre côté, c'est un gros apprentissage parce que c'était des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de faire. Il faut envoyer un courriel avec les documents, un autre courriel avec le mot de passe séparé. On a des clients qui sont pas tant à l'aise avec le côté électronique. Il faut tout le temps voir le client. Donc de 0 à 100, là, tout le long de la procédure. Fait que s'il y en a un qui fermait son écran, ça ne marchait plus. Fait que, tu sais, ça a quand même créé du stress puis des coûts supplémentaires aussi pour les notaires. Fait qu'il y a beaucoup de notaires qui ont augmenté leurs tarifs. Là, les clients n'étaient pas contents parce qu'ils se disaient, hey, en plus, on se déplace même plus. Ça. Tu charges plus cher. Oui, c'est parce que nous, le logiciel, il coûte quelque chose. Là, puis le temps que ça prend, au départ, là, les gens qui faisaient les signatures électroniques, les notaires, là, les premiers temps là, qu'ils l'utilisaient, là, le temps pouvait facilement être doublé là, pour une transaction. Là.
Ben c'est ça, parce que c'est la même job de recherche, puis la rencontre n'est pas moins longue parce que c'est moins long pour le client, c'est ça. Puis en plus, tu disais tantôt que plusieurs jeunes sont solos, pratiquent tout seul, fait que c'est pas des gens en TI, là, tu sais, je veux dire, c'est pas des gens qui pouvaient arriver puis dire j'incorpore ça, puis c'est facile, puis je suis habitué.
Puis en même temps,
pas de ressources à l'interne pour le faire nécessairement.
Puis le client qui comprend pas, puis qui sait pas comment ça fonctionne.
Ben c'est ça, puis on n'est plus pas à l'abri de bugs, là.
Non.
Puis, tu sais, dans un contexte encore pire, c'est que, tu sais, t'es notaire, ta job, c'est vraiment de consolider la transaction, de s'assurer que ton acte va être fait correctement. Mais là, tu deviens un support TI, là.
Exact.
Un support technique pour leur dire, ben écoute, allez voir votre courriel, on est peut-être dans les indésirables, allez voir ça. Ouais. Fait que là, tu viens de connaître toutes les boîtes de réception courriel, Gmail, Hotmail, Outlook, etc. Là, fait que là, tu viens de tout savoir, ah, vous utilisez ça, allez là, à tel endroit, etc., etc. Il y a ça que ça l'amène aussi, puis il y a toute la gestion électronique des documents, parce que là, on peut plus conserver les documents seulement physiquement avec les signatures, puis de mettre ça dans notre greffe, mais on doit, en plus de ça, avoir un greffe numérique.
Oui.
Fait que là, c'est des coûts supplémentaires, il y a une gestion supplémentaire par rapport à ça, puis tu sais, il y a l'adaptabilité qu'on doit avoir aussi pour ces situations-là. Fait que je comprends que ça l'a amené, ça a amené certains changements importants, mais c'est pas vrai que c'était juste les vieux notaires qui ne voulaient pas embarquer là-dedans. Puis que, tu sais, il y en avait des jeunes notaires que eux étaient comme non, tu sais, nous, on conserve la pratique traditionnelle.
Oui, dont moi. Donc, je suis présidente de l'Association des jeunes notaires. Je suis au fait de la technologie. Je suis sur des comités de la Chambre des notaires. Mais moi, j'ai carrément refusé d'embarquer là, dans le lot des signatures électroniques au grand désarroi de mes clients. Mais ça dépend de la personne. T'sais, moi, je suis vraiment une personne qui aime le contact client. Donc, j'aime se recevoir les clients dans mon bureau, placoter avec eux autres. T'sais, quand c'est des clients que je vois de temps en temps, ben t'sais, je prends des nouvelles. Fait que, t'sais, pour moi, ça, c'était vraiment important.
Ouais.
Fait que j'ai continué à prioriser ça. Puis, t'sais, la clientèle, ça la dérangeait pas tant. T'sais, oui, ils se demandaient pourquoi il n'y avait pas de signature électronique, mais quand je leur disais que moi, j'en faisais pas parce que je préférais les rencontrer en personne.
C'est parce que je vous aime que je le fais pas. C'est comme ça que tu me présentais.
Ouais, exact, c'est bien ça.
Non, mais c'est vrai que t'sais, c'est un service client quand même, là, dans le sens que tu perds. Puis, t'sais, de façon plus générale, à un moment donné, tu perds ça. Tu perds peut-être un peu le sens de ta profession si ce que tu tripes, c'est justement de recevoir des gens. Là. Oui, ça se fait en Zoom ou en Team ou peu importe, là, mais on a tous eu quand même notre quarantaine depuis 2 ans. Fait que, ça ne veut pas dire que tout le monde a le goût de mettre cette pratique-là en place à long terme puis de dire bon, ben, je ne verrai plus personne, je vais être en pantoufles avec mon café. Oui. C'était trippant dans les premiers mois, mais là, à un moment donné, c'est pas nécessairement une façon de travailler qui plaît à tout le monde. Fait que on peut comprendre ça aussi.
Puis tu sais, il y a d'autres avantages aussi, là. Tu sais, tout ce qui est télétravail aussi au niveau du notaire, parce que tu sais, il y a des gens qui vont aimer ça, être plus en télétravail, de pas besoin de mettre un saut nécessairement pour pouvoir aller rencontrer les clients, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de transport le matin puis le soir, ben tu le gagnes dans ta journée, tu le gagnes dans ta qualité de vie. Tu sais, il y a quand même plusieurs avantages aussi pour le notaire qui exerce, mais il y a aussi, tu sais, le lieu de travail, il n'y a même plus d'importance, ça. T'sais, le lieu de travail, on n'est plus obligé d'avoir un bureau fixe. On peut t'sais, conserver notre greffe électronique. On peut avoir notre bureau à domicile, faire signer la documentation, puis d'exercer quand même le droit notarial sans nécessairement avoir les frais de location de bureau, les frais de chauffage, électricité, etc. Fait que t'sais, ça amène quand même plusieurs autres avantages. Puis il faut juste être en mesure. Puis selon moi, la meilleure méthode va toujours demeurer la méthode mixte, là, parce que t'sais, le contact humain est vraiment important. Puis t'sais, des fois, ça se peut que la première rencontre pour l'hypothèque, etc., peut-être que les gens vont préférer la faire en personne, celle-là, puis la deuxième pour la lecture de l'acte, qu'on puisse le faire en version électronique, mais ça amène d'autres défis aussi, là. T'sais, moi, un des défis qu'on vit à tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les clés. T'sais, présentement, il y a plusieurs notaires qui profitent de la situation de la COVID pour pas avoir de courtier immobilier dans leur bureau. Fait que ça fait en sorte que nous, on peut pas se déplacer, mais nous, on a la clé de la maison plus un double de clé, puis on fait quoi avec ça?
C'est comme un valet à l'extérieur.
mais même chose pour le vendeur. T'sais. Aujourd'hui, on en a parlé encore avec un vendeur, puis j'ai dit, écoutez, laissez les clés dans le garage, puis t'sais, quand vous aurez votre acte de vente, dites-le à quel endroit qu'ils sont placés, puis l'acheteur va pouvoir prendre les clés puis rentrer dans sa maison, parce que les gens, t'sais, le client, c'est pour une maison à Sainte-Agathe, son notaire est à Longueuil.
Ouais.
Puis on les gère comment, les clés? Là? Puis là, ben, t'sais, le monsieur ne connaît pas les signatures électroniques. Fait que, tu sais, moi, j'ai pris le rendez-vous avec le monsieur à mon bureau pour pouvoir signer les documents. Puis, tu sais, mais qu'il quitte, je vais réimprimer tous les documents parce que lui veut avoir les copies
papier.
Ouais. Papier. Puis c'est correct. Moi, je suis un gars de papier. Fait que je comprends.
J'ai quand même un beau petit papier laminé pour lui.
Ouais, c'est ça. Écoute, je suis prêt.
Je suis vraiment prêt. Mais ça m'amène à un autre point parce que, tu sais, tu dis ça a ouvert aussi aux clients à faire affaire avec des notaires un peu partout.
Oui.
Mais est-ce que ça l'a amené aussi, ce qui était déjà peut-être un peu tannant, mais la guerre de prix de dire, bon, ben là, tout d'un coup, je peux aller voir n'importe quel notaire. Fait que je vais. Il y a des clients, j'imagine, qui ont remagasiné un peu plus les prix plus largement. Fait que c'est encore là dans un contexte où vous avez un nouvel outil, plus de pression, plus de volume, puis des gens qui magasinent des prix. Je sais pas comment ça s'est manifesté. Ou...
Ben, en fait, c'est sûr que au départ, pendant la pandémie, il y a eu. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup une augmentation de prix. Ceux-là qui faisaient des signatures électroniques, là, tu sais, puis quand on parle d'augmentation de prix, là, on parle de 3, 4, 500, on parle pas de 25 $ 30 $ là. Fait que c'est sûr qu'il y avait déjà énormément de, je m'excuse du terme, magasinage avant la pandémie. Ça va rester malheureusement une réalité là, dans notre profession. Là, on reçoit des téléphones de chez vous, combien ça coûte pour acheter une maison. Tu sais, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est un prix.
Ouais.
C'est pas une qualité de travail, malheureusement. Puis on a beau leur expliquer, c'est important d'avoir une belle relation avec votre notaire, c'est important, c'est une belle transaction. La pandémie, au départ, a amplifié ça. Les gens voulaient tellement des signatures électroniques, puis là, tout était fermé. Les gens voulaient avoir un rendez-vous chez le notaire. Fait que les gens étaient prêts à payer. Là, ouais. Ils cherchaient un notaire, il était correct de le payer, là, 300-400$ de plus. Ça l'a diminué, ça, pendant la pandémie, parce qu'à un moment donné, ben là, il y a des notaires, pour avoir plus de clients, ben ils ont baissé leur prix.
Ouais.
Fait qu'on a vraiment eu une recrudescence de la compétition.
Puis l'autre chose aussi, c'est que ça l'amène au niveau du travail du notaire, souvent deux rendez-vous. Puis peut-être même trois rendez-vous. Parce que, tu sais, oups, le vendeur, ben là, lui, il peut juste le mardi soir, l'acheteur peut juste le jeudi, versus qu'avant ça, le rendez-vous est là, c'est une obligation, tu travailles pas, tu prends congé, tu vas être au rendez-vous. Puis là, maintenant, la clientèle demande au notaire de s'ajuster à son agenda à lui. Fait que, tu sais, c'est des choses quand même qu'on n'aurait pas pensé qu'il aurait pu arriver ou ce qu'on aurait pu exiger à un notaire de plier à nos agendas à nous, puis on le voit, là, tu sais, plusieurs investisseurs avec qui je travaille exigent à ce que son notaire se signe tel moment de la journée, etc., puis le notaire, en même temps, il fait comme, écoute, c'est un bon client, j'ai pas le choix, je vais le prendre, puis tu sais, on pensait que les notaires travaillaient toujours dans un horaire ou un cadre fixe, puis là, oups, on vient les sortir dans leur zone de confort, puis tu sais, on a des clients qui sont très exigeants avec ça aussi, là.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'était déjà quelque chose qu'on vivait quand même quand les rencontres étaient en personne. Puis, c'était vraiment, dans le fond, le notaire, soit il acceptait, soit il acceptait pas. Tu sais, il y en a des notaires qui travaillent de soir. Puis, il y en a qu'à un moment donné, ils font comme, garde, moi, j'ai une famille, j'ai une vie autre. Fait que, tu sais, c'est mes heures, c'est de ça à ça. On l'a vécu avec la signature électronique qui prévoit quand même une certaine latitude, là, parce qu'il y a plus, t'as plus besoin d'être au bureau, t'as plus besoin de. Fait que, tu sais, tu peux signer n'importe quand. Par contre, tu sais, c'est sûr qu'un acheteur qui, tu sais, une jeune famille, qui ont trois enfants, mais peut-être qu'eux autres, ça leur tente pas de signer un acte de vente le mardi soir à 8h quand que ils viennent de coucher les enfants ou que c'est encore le bordel dans la maison. C'est sûr que, dans le fond, la signature électronique permet des signatures qu'on appelle différées. Donc, l'acheteur qui signe telle date, telle heure, le vendeur qui signe à une autre date, une autre heure. Par contre, ben, tu sais, avec les difficultés, là, Jeff, que tu as parlé pour la remise de clés et autres, tu sais, c'est pas l'idéal non plus.
Puis il y a tout
quoi,
aussi.
C'est problématique.
Puis, exact. Puis c'est toutes les histoires aussi de fonctionnement d'équipement, la thermopompe, je t'ai laissé les livres à telle place, etc. Mais... Puis, tu sais, il n'y a plus de contact entre monsieur, madame. Je vais te dire, tu sais, à certains niveaux, je trouve ça quand même bien parce que, tu sais, on évite à ce qu'ils échangent leur numéro de téléphone puis que, tu sais, qu'il y ait des communications du téléphone arabe ou que des fois, quand ça vire mal, là, puis ça vire au vinaigre, ben, tu sais, c'est pas toujours poli. Ouais, qu'est-ce qui se donne comme information. Fait que, tu sais, des fois, ça peut nous permettre de rester comme intervenant puis intermédiaire dans la transaction. Mais, tu sais, moi, je trouve que ne pas avoir le contact humain du vendeur, puis, tu sais, en toute franchise, c'est ta maison. Tu sais, présentement, on vient de vendre une propriété où ce que les gens, ça fait 46 ans qu'ils habitent dans la propriété.
Et en ont des choses à dire, là, c'est sûr.
Ils veulent partager leur histoire avec... Ils veulent pas faire ça sur Internet, là.
Non.
Tu sais, puis je suis d'accord avec eux. Puis, tu sais, fait que moi, je trouve que le modèle hybride...
Mais parce qu'il y a une portion que tu vas avoir dit dans les visites les plus informelles et tout, mais il y a une portion de... Genre, là, je te donne la clé. Comme tu dis, la thermobombe marche de même. Ça, c'est là. Ouais. By the way, ça, c'est là. C'est niaiseux, mais c'est le genre d'affaires qu'après... Mais on peut pas gosser en bon français après ça. Mais je veux dire, si on n'a pas eu l'information, tout ça, puis qu'on sait pas nécessairement où aller chercher, ben je suis d'accord avec toi. Là. Moi, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir cette rencontre-là. Là.
Puis écoute, premier segment, 20 minutes, ça va vite en crime. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CJMD 96.9, l'alternative radio.
CJMD.
Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure
pour votre toiture.
Groupe DBL, qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture, est fier d'être recommandé CAA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
18 ans et plus. Sexualité. Non! Juste pas pour les doux.
De retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison, et avec mon acolyte Kevin Filion de Plan de Match Renault. Plusieurs projets en route, Kevin, actuellement?
Yes. Plusieurs projets d'investissement, plusieurs projets avec des clients aussi, fait que... Toujours disponible pour vos projets d'optimisation, rénovation. Je suis là.
C'est vraiment cool. Puis aujourd'hui, on est avec Jesse Labrec. On parle du droit notarial. Puis une des choses que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas, c'est quoi tout le travail derrière. Tu sais, on pense que c'est toujours simple. Ça va prendre juste une heure. Tu sais, tu dois avoir la question souvent. Écoute, j'ai acheté une maison. On part chez le notaire dans 10 jours.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
À pas raccrocher. Attends qu'on décide de pas raccrocher.
Ben, en fait, les notaires dans mon genre qui ne savent pas dire non, ben, on fait comme, ben, d'accord, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Par contre, ce que les gens ont pas l'air de savoir, c'est qu'il y a quand même une bonne quantité de travail derrière un dossier, là. Les gens pensent que c'est des blancs dans un formulaire, là, qu'on fait juste comme imprimer puis remplir. Mais non. Parce qu'en fait, là, nous, les notaires, on a vraiment le devoir de protéger les clients puis on a le devoir de neutralité. Fait que oui, c'est l'acheteur qui nous contacte, mais dans le fond, il y a acheteur, vendeur puis le prêteur hypothécaire aussi, là, dans le dossier. Donc, tu sais, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie les titres de propriété. Vérifier les titres, dans le fond, c'est qu'on va remonter là tous les actes sur au moins les 30 dernières années pour voir est-ce que notre vendeur actuel est bel et bien propriétaire, tu sais, pour être sûr qu'il ne manque pas un coin de terrain dans le fond qui appartient encore à une vieille succession de 1982. On vérifie que les taxes sont à jour, on vérifie tous les documents là, afférents au dossier, certificat de localisation, promesse d'achat. C'est nous autres aussi qui gèrent les fonds. Donc, c'est pas l'acheteur qui paye le vendeur en dessous de la table, ça passe vraiment par le notaire. Puis au niveau de l'examen des titres, là, en fait, on a les propriétés résidentielles, on a les condos aussi qui sont plus complexes. Un examen des titres, c'est sûr que dans un cas, ça peut prendre une heure. Comme dans certains cas, j'ai déjà fait des dossiers que ça me prenait deux jours faire l'examen des titres. Là. Fait que juste pour s'assurer que tout est conforme, il y a quand même un bon lot de travail. Puis au niveau de la vérification des taxes, il faut quand même contacter les commissions scolaires, il faut contacter les villes, il faut que le courtier nous envoie les documents. Il faut qu'on vérifie que tout est conforme. Puis une des grosses problématiques qu'on a vécues au niveau dans le fond de la documentation, là, c'est dans les dernières années, les certificats de localisation, là, les arpenteurs géomètres, là, eux autres aussi, faire un certificat de localisation, c'est un gros travail. Fait qu'il faut qu'ils prennent le temps de le faire, ce document-là. Fait que si le courtier immobilier prend un mandat de vente de maison, puis que finalement, ça se passe super bien, vend la propriété, se rend compte que le certificat de localisation n'est pas à jour, fait que dit à son client, ça va te prendre un nouveau certificat. Ben, si le but, c'est de passer chez le notaire dans 10 jours, je peux vous garantir que l'arpenteur, il ne l'aura jamais fait, le certificat, dans 10 jours. Là.
Je te garantis, dans les délais d'aujourd'hui, là, avant pandémie, je disais que ça prenait entre 6 et 8 semaines. Ouais. Maintenant...
C'est des mois. C'est 8 mois.
Bon, non, mais c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, mais tu sais, reste que c'est quand même super important d'entamer cette démarche-là. Puis, tu sais, combien de fois ça arrive dans les transactions immobilières que le certificat de localisation arrive sur la fesse une heure avant l'acte de vente, que là, on reçoit le certificat de localisation. Il y a un paquet d'anomalies qui sont indiquées sur le certificat de localisation. Niveau de stress vendeur au piton, le niveau de stress des acheteurs au piton. Les engagements sont pris de part et d'autre pour le déménagement, etc. Ouais. Mais il y a une problématique. Le créancier, souvent, lui peut mettre un frein aussi à la transaction parce que, tu sais, on arrive dans une situation où une zone humide qui n'était pas indiquée pourrait faire en sorte que le créancier dise non, moi, non, j'embarque pas là-dedans. Là. Puis là, ben, on est à minuit moins quart. Puis de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que, tu sais, plusieurs situations doivent arriver de cette façon-là. Puis vous, comme notaire, c'est difficile aussi, tu sais, au-delà d'en faire la lecture, de voir le plan, de voir le rapport de l'arpenteur, c'est que vous n'êtes pas nécessairement sur place à savoir si c'est grave ou pas grave non plus. Là. Fait que, tu sais, qu'on soit, par exemple, dans une zone inondable, mais que la maison est surélevée, puis que, tu sais, ça a été fait bulletproof pour les inondations ou peu importe ce que c'est, ben on n'est pas sur place, on ne le sait pas, puis c'est difficile à savoir. Fait que, tu sais, au-delà de la lecture, comment vous en faites la compréhension du certificat de localisation? Oui, il y a comme toutes les clauses, mais dans tout ça, s'il y a des anomalies, vous n'avez pas le choix des déceler puis des mentionner à l'acheteur, au vendeur, oui, puis au créancier hypothécaire.
Ben, en fait, le créancier hypothécaire, là, ça va dépendre de ce qu'on va trouver. T'sais, c'est sûr que quelque chose de très, 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 très commun qu'on voyait dans les certificats de localisation, c'est les fameux cabanons dans une servitude d'Hydro-Québec. Donc, servitude d'Hydro-Québec, c'est qu'admettant à l'arrière du terrain, il y a un poteau, fait qu'Hydro-Québec, c'était garder un droit de passer, de venir travailler, admettons, sur 1,5 m de large ou 3 m de large. Les propriétaires n'en ont pas tenu compte quand ils ont fait construire leur cabanon. Fait que dans le fond, le cabanon, il est dans la servitude. Bon, ça, c'est pas, à la limite, très, très grave, mais encore là, ça dépend du cas. Ça dépend, tu sais, ton cabanon, il est sur une dalle de béton, il est sur des blocs, il se déplace-tu, il est-tu 8 mètres carrés ou il en fait 26, tu sais, il y a vraiment des critères. Fait que tu sais, dans des cas comme ça, admettons d'une remise ou d'un cabanon qui peut être déplaçable, on commencera pas à viser le créancier hypothécaire, là, parce qu'à la limite, c'est une problématique qui peut se régler. Mais je prends la même servitude. La piscine creusée est construite dans la servitude d'Hydro-Québec. C'est un peu plus problématique, parce que normalement, ta piscine creusée, ben, t'es pas supposé la bouger, là. Fait que ça dépend vraiment du cas par cas. Des fois, c'est des légers empiétements. Fait que si on a un muret, admettons, qui est un peu chez le voisin, mais tu sais, si il est pas 6 mètres chez le voisin, tu sais, on n'avisera pas nécessairement le créancier. Fait que la première personne, c'est vraiment l'acheteur. Fait que toutes les petites choses qu'on peut trouver, ben, on les divulgue à l'acheteur. Sauf que, tu sais, on a quand même un devoir de neutralité. Fait que si on avise le vendeur quand on en a parlé à l'acheteur, l'acheteur, dans certains cas, peut dire c'est pas grave, j'achète quand même. Puis dans d'autres cas, par contre, il y a le droit aussi d'exiger que la problématique soit réglée. Fait que là, on se retrouve avec un cas où est-ce qu'il faut agir un peu comme intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur.
Puis c'est encore moins le fun quand on est à dernière minute, justement. Puis peut-être
fait.
Que ça amène des retenues ou des choses à régler suite à la transaction.
Puis tu sais, la retenue, on peut pas l'imposer. Ouais. Fait qu'admettons que l'acheteur dit « moi, je veux que ce soit corrigé ». Fait que, mettons, tu dis, bon, on pourrait toujours retenir, admettons, 3, 4, 5 000 le temps de voir. Le vendeur, lui, s'il veut pas que tu retiennes son argent, tu peux pas le retenir contre son gré.
Ouais. Fait que c'est de la négo.
C'est de la négo ou ça peut même faire avorter une transaction. Parce que techniquement, dans ta promesse d'achat, c'est indiqué que ton vendeur vend, dans le fond, sans vice de titre. S'il y a une problématique au niveau de la propriété, c'est un vice de titre.
Puis, ça peut faire... C'est super intéressant, ça, parce que je l'ai vécu, moi, à Beaumont, puis tu sais, je l'ai déjà conté l'histoire, mais... T'sais, on a pris un arpenteur que nous, on réfère parce qu'on sait qu'ils sont ultra performants. Elle a décelé des écoutements des eaux, du surplomb, elle a décelé quand même certaines problématiques sur la conception architecturale initiale. Là. C'est pas sur on a fait quelque chose de nouveau sur le bâtiment. Là. C'était construit comme ça. Par contre, le premier arpenteur, ben tu sais, souvent, selon moi, il a pris son rapport initial d'implantation puis il n'est jamais retourné consulter. Puis ça l'arrive régulièrement. Sauf que là, mon notaire, lui, a mentionné, pas mon notaire, mais mon arpenteur a mentionné plein d'irrégularités. Puis le notaire, avec l'acheteur, a exigé à ce que ce soit régularisé par servitude, mais pour deux voisins, parce que j'habitais en maison arrangée. Fait qu'il a fallu que je fasse signer le voisin de droite puis le voisin de gauche. Puis s'il y en avait un qui ne voulait pas signer, la transaction avortait. Puis, tu sais, ça a mis une pression énorme sur l'acheteur. Parce que moi, j'ai dit, ben écoute, moi, je ne signe pas aucun papier tant qu'aussi longtemps que c'est pas régularisé. Puis, elle a dit, ouais, mais moi, je déménage. J'ai dit, ben écoute, tu m'exiges quelque chose. Je vais prendre le temps nécessaire pour le faire. Fait que, tu sais, ça a amené une tension vraiment pas le fun. D'où la négociation aussi d'une retenue. Puis, j'étais comme, non, tu sais, moi, je veux pas de retenue. C'est comme, on signe ou on ne signe pas.
Mais c'est ça, quand le stress embarque les deux parties, c'est comme la négo n'est pas tant ouverte que par rapport à si ça se passe des semaines. Ça revient à ce que tu dis souvent, tu sais, il faut que les clients vendeurs se mettent en tête de tout de suite faire un certificat de localisation. Pas j'annonce, j'affiche. Quand on vendra, on embarquera cette dépense-là.
Exact. Sauf que la réalité, tout le processus arrive en même temps parce que les gens ne sont pas au courant. Fait que on rencontre le client puis on dit, ben, écoute, ton certificat de localisation n'est pas conforme. Il dit, ouais, mais j'ai juste rajouté... J'ai juste agrandi mon patient. Ouais, c'est suffisant pour qu'on ait l'obligation d'en refaire un nouveau. Ouais. Fait que, tu sais, le certificat de localisation, ultra important de maintenir à jour. Mais un point encore important, c'est les assurances. Combien de fois que tu appelles des clients pour leur dire avec quel assureur? Un assureur? Ah, j'ai pas appelé, je vais te revenir avec ça. Fait que là, les clients appellent leur compagnie d'assurance à la presse.
C'est long.
Puis oui, puis tu sais, en même temps, tu n'as pas des bonnes réponses tout de suite. Puis, tu sais, en même temps, c'est que ton acte de vente est dans deux semaines parce que c'est un spot check qui est souvent fait deux semaines avant l'acte de vente. Peut-être qu'il y a certains bureaux, c'est plus tôt ou plus tard. Là. Mais généralement, deux semaines avant, puis là, tu fais comment? J'ai pas ça. Puis là, oups, l'assurance dit, écoute, ta cheminée, on te l'assure pas. Ah, crime, ta fosse septique, c'est trop vieux, on te l'assure pas. Hey, ta piscine, on te l'assure pas. Puis là, tu fais comme, crime, attends un peu. Là.
Ben, pour ceux qui sont en dessous d'une roche depuis une couple d'années, c'est ça, les assureurs, ils ont resserré à peu près tout. Fait que tu veux pas à deux semaines. C'est sûr que c'est un beau produit, construction neuve, ça va bien. Mais mettons, moi, un certain plus vieux immeuble où des fois, ils vont demander un tout risque, puis tu as un immeuble de début 1900. Là. Bonne chance en ce moment pour magasiner dans le délai que tu viens de dire et peut-être même juste essayer de trouver une couverture d'assurance. Là.
Ben, définitivement. Puis ça, vous devez le vivre régulièrement, là, que les gens n'ont pas entamé cette démarche-là avant même de rencontrer le notaire.
Oui, effectivement. Puis ils sont surpris quand on leur demande leur preuve d'assurance parce qu'ils se disent, ben, t'sais, pourquoi le notaire m'exige une preuve d'assurance? Puis en fait, ce qu'on leur explique, c'est quand il y a un prêt hypothécaire. Quelqu'un qui achète un immeuble comptant, qui n'a pas de prêt hypothécaire, on lui recommande de s'assurer, mais on ne le vérifiera pas. Quelqu'un qui a un prêt hypothécaire, ça fait partie des obligations envers le prêteur d'avoir une assurance sur le bâtiment. Puis dans certains cas, ça prend une valeur à neuf. Dans d'autres cas, c'est juste d'assurer au moins pour le montant du prêt. mais moi, je dois recevoir la police d'assurance au moins quelques jours avant, puis je vérifie plusieurs éléments. Tu sais, je vérifie la date, l'adresse, le nom du créancier, il faut qu'il soit indiqué. Des fois, j'ai des fautes dans le nom du propriétaire ou, tu sais, il achète à deux, mais il y en a juste un qui est assuré. Fait que, tu sais, on a quand même plusieurs vérifications à faire. Puis moi, dans le fond, quand je leur fais signer l'acte de vente, qu'il y a une passation de titre, ben il faut que je sois capable de garantir à mon vendeur qu'il y a une assurance aussi. Là.
Ouais.
Parce qu'eux, ils annulent la leur. Là.
Un peu naïvement, je pense que les gens se disent aussi, tu sais, l'ancien propriétaire avait une couverture d'assurance, il était assuré, moi, on va changer le nom, puis tu sais, je vais continuer
tout bonnement, sur la même affaire, la même prime, la même couverture. Mais non, et comme tu dis, il y a un solide spot check. Si ça fait 10-15 ans, c'est assez rare qu'on est capable de reprendre le même produit ou même, en fait, pratiquement jamais.
Jamais.
Je pense, dans des transactions,
mais... Les normes ont changé aussi. Les normes ont évolué. Les assurances veulent être à jour en date d'aujourd'hui, en date de la transaction. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a été fait il y a 100 ans? Ils ne l'assurent plus. Là. C'est comme il y a un avenant qui retire ça complètement. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont ultra importantes. Puis arrive aussi, on passe chez le notaire, on doit donner de l'argent, notre mise de fonds, on fait des transferts électroniques, on vous envoie un chèque ou, tu sais, peu importe la façon qu'on amène l'argent chez vous. Mais... La banque aussi vous envoie de l'argent chez vous. Puis vous, je pense que vous avez un devoir de recevoir l'argent dans un délai prévu avant l'acte de vente, c'est ça?
Bien, en fait, là, c'est sûr et certain qu'au moment où est-ce que je m'assois avec des acheteurs et des vendeurs pour faire une transaction de propriété, moi, il faut que je puisse garantir à mon vendeur que j'ai son argent. Il n'y a pas un vendeur qui va vouloir signer l'acte de vente dans lequel il dit qu'il cède la propriété et qu'il reconnaît avoir reçu l'argent en n'étant pas certain que le notaire a l'argent. Fait que dans le fond, l'acheteur me transfère directement sa mise de fonds. Là, maintenant, tout fonctionne pas mal là, par transfert électronique, là, ce qu'on appelle des coupons qu'on transmet aux clients. Puis il y a le créancier hypothécaire, le prêteur, qui lui nous envoie directement là, le prêt. Fait que c'est vraiment nous qui gérons la totalité de l'argent. Puis après ça, ben, une fois la signature de l'acte faite, il faut que l'acte soit enregistré, qu'on ait la preuve que le vendeur il aurait pas mis, par exemple, d'hypothèque à la dernière minute puis qu'il n'a pas vendu deux fois la même maison à deux personnes différentes. Après ça, on lui redonne son argent. Fait qu'on protège notre vendeur et notre acheteur par l'effet même.
Puis est-ce que vous devez recevoir les fonds 72 heures avant l'acte de vente?
Quand c'est par transfert électronique, là, on peut l'avoir 5 minutes avant l'acte de vente.
OK. C'est plus stressant.
On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais dans le fond, c'est parce que le transfert électronique, il n'y a pas ce qu'on appelle de compensation bancaire. C'est qu'une fois que l'argent est rentré dans ton compte en fidéicommis, l'argent est disponible. Par contre, dans le temps. Donc, il y a quand même quelques années, là, c'était beaucoup des traites bancaires. Les traites bancaires, on devait les avoir au moins 72 heures à l'avance. Parce que même si c'est un chèque officiel d'une institution financière, bon, il y a toujours le risque que l'institution fasse faillite pendant la nuit ou qu'il se soit révoqué pour une raison X. Fait que dans le fond, il faut être sûr que nos fonds sont compensés dans notre compte.
Puis il faut avoir, puis tu sais, il y avait des faux chèques aussi, là, puis tu sais, de s'assurer aussi que l'argent soit là. Parce que tu sais, un délai de 72 heures permettait justement de déposer l'argent puis de s'assurer que l'argent soit retiré du compte.
Oui, puis tu sais, 72 heures, c'était traite bancaire, là, mais tu sais, ça, admettons qu'il nous envoyait un chèque certifié, bien, c'était 10 jours. Celui-là qui envoyait un chèque personnel, bien, c'était 30 jours. Fait que quand ça provenait de l'international, c'était d'autres délais. Fait que on est vraiment surveillé là-dessus au niveau de la Chambre des notaires. Là.
Dans la gestion de l'argent aussi, vous avez tous les ajustements, toutes les autres petites dépenses autour.
Le mémoire.
C'est, c'est de la micro-gestion un peu, mais ça fait partie de ce qu'on dit que c'est de la job aussi.
Quand on parle de. Je parlais tantôt là, qu'il fallait vérifier que les taxes sont à jour. T'sais, ça, c'est une chose, c'est que les taxes soient à jour. Mais après ça, ben, il faut quand même calculer la proportion de l'année des taxes qui appartient au vendeur, qui appartient à l'acheteur. Fait que, si le vendeur a payé ses taxes pour l'année, ben, il faut que l'acheteur y en rembourse une partie. Puis, dans certains cas, ben, on a la bonbonne de propane ajustée, on a le mazout ajusté. Ça dépend toujours des conventions entre les parties. Mais. C'est
les surprises qui arrivent sur place, que « Ah, j'ai oublié de te dire, c'est vrai, j'ai un réservoir à l'huile, puis il est à moitié. » Ça arrive régulièrement.
Oui.
Ça arrive toujours, là. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Là.
La fameuse bonbonne de propane, là, dans le fond, t'as la bonbonne qui est en location à 100$ par année, puis t'as le propane qui est dedans. Là, fait que, tu sais, c'est sûr que quand on le sait d'avance, parce qu'on peut pas le deviner, tu sais, comme Jeff disait tantôt, on va pas sur place. Non. Fait que, tu sais, si le vendeur nous arrive 2 heures avant la transaction, puis dit « Ouais, t'as-tu dit à ton acheteur qu'il fallait qu'il me rembourse mon propane? » Puis t'es comme « Ben, j'étais pas au courant.
Ouais, »
Mais sinon, là, quand on le sait, on fait les ajustements. Fait que, tu sais, si, admettons, l'acheteur, il faut qu'il rembourse, j'ai aucune idée, moi, 500$ au vendeur pour les taxes puis le propane, ben, on va y faire envoyer dans sa mise de fonds.
Et ça passe encore toujours par vous. Tout ce qui est entretien aussi, déneigement, aussi, il y a des dépenses encourues.
Mais si ça arrive aussi que ça se paye, dans le fond, dans mon bureau, entre l'acheteur et le vendeur directement, là. Tu sais, si, dans le fond, là, dans mon bureau, ça arrive puis qu'ils se mettent à parler du déneigement parce qu'il reste 2 mois. Puis que l'acheteur accepte de payer une partie du déneigement, mais il va sortir son carnet de chèque puis il va faire un chèque directement au vendeur.
Ouais.
C'est ça, c'est pas obligé de passer par nous, contrairement au prix de vente de la propriété.
Okay. Puis en même temps, tu sais, il n'y a rien qui a été simple aussi pour les taxes. Tu sais, les taxes municipales, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Les taxes scolaires, c'est du 1er juillet au 30 juin. Mais en même temps, c'est que la ville de Lévis, ben, retarde les deux premiers paiements. Fait que ton premier paiement de janvier, tu le fais en mars. Fait que là, quand tu arrives pour faire des ajustements, les gens, ils disent, je suis à jour sur mes paiements. Comment ça, j'en ai deux en retard? Non, non. Tu n'étais pas à jour dans tes paiements parce que tu en as deux en retard parce que la ville...
T'as permis ça.
Ben, c'est ça. Le calendrier de versement à Lévis, là, il est fait de manière un peu spéciale. Là, on est vraiment la seule ville faite comme ça. Fait que à Lévis, là, les transactions de propriété, à moins que le vendeur ait payé ses taxes à l'avance, là, c'est pas mal tout le temps le vendeur qui doit de l'argent à l'acheteur parce qu'il n'a pas assez payé de taxes dans l'année. Fait que là, le vendeur ne comprend plus rien quand il arrive dans mon bureau. Puis c'est de la manière que tu expliques ton calendrier de versement, il est fait de telle façon. C'est comme... Ah ouais, c'est vrai. Mais le vendeur, lui, dans sa tête, il paye ses taxes à tous les mois, là, fait qu'il comprend pas pourquoi il faut qu'il en redonne à l'acheteur en plus.
Ben c'est ça. Puis toi, dans cette recherche-là aussi que tu as à faire, ben, ça veut dire que tu vas voir, tu dis à la commission scolaire ou tu vas voir la ville, tout ça. Puis dans le contexte actuel encore des deux dernières années, tu n'as peut-être pas toujours des réponses super rapides non plus.
Ben, tout se fait de manière électronique. Okay. Ça aussi, c'est une belle surprise pour nos vendeurs parce qu'aux dernières nouvelles, la ville de Lévis, ça coûte à peu près 75 $ pour avoir un relevé de taxes pour les notaires.
Oh, wow.
La commission scolaire, c'était 25. Okay. Ça, ben, c'est à la charge du vendeur. Fait que le vendeur, en plus, dans sa facture, parce que oui, le vendeur paye le notaire, grosse surprise ce matin, il y a comme un 100 $ de relevé de taxes là, à payer en plus.
C'est, ça vous est chargé directement à vous par oui. La ville, comme ça, scolaire, donc
oui.
Direct.
Puis tu sais, un point super important, que tu dis oui, le vendeur va avoir une facture du notaire pour le travail du notaire, mais une chose qui est super importante, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est à cause que vous aviez une hypothèque chez Desjardins, puis l'hypothèque chez Desjardins, il faut dire au registre foncier qu'elle a été radie, qu'elle a été payée. Mais pour faire ça, il y a une démarche, il y a une recherche, il y a une publication qui doit être faite, il y a du temps qui est investi là-dessus, puis c'est majoritairement les frais que le vendeur va avoir avec les vérifications puis les ajustements, c'est ça?
Oui, tout à fait. Puis souvent, nous, la base là, contractuelle sur laquelle on va baser notre argumentation, c'est, encore une fois, j'en ai parlé tantôt, le vendeur doit vendre sa propriété sans vice de titre. Une hypothèque, techniquement, c'est un vice de titre parce que ça suit la propriété. Fait que même si le vendeur vend, l'acheteur peut être pris. Dans le fond, la banque du vendeur a le lien sur la propriété. Fait que c'est vraiment la responsabilité du vendeur d'enlever ce lien-là. Donc, le notaire, avec la gestion de l'argent, va rembourser le solde hypothécaire. Donc, on communique avec l'ancienne institution financière pour savoir combien le client doit. Donc, on fait le remboursement, puis après ça, on fait ce qu'on appelle une quittance. Donc, on fait signer un contrat notarié à la banque disant qu'on a été remboursé, on libère la propriété. Mais ça, c'est aux frais du vendeur. Mais même un vendeur qui n'a pas d'hypothèque, donc qui n'a pas de quittance à faire, bien, il y a quand même des frais que le notaire va charger parce qu'il y a quand même une partie du travail là, dans le fond, qui appartient au vendeur. La vérification des taxes. Toute la vérification des documents, le fait qu'on y remette aussi, tu sais, qu'on gère l'argent. Tu sais, nous, les notaires, dans le fond, là, une fois que notre acte de vente, j'en parlais tantôt, doit être publié, une fois qu'on a la preuve que tout est beau, c'est pas juste de donner l'argent au vendeur. On paye l'arpenteur, on paye le courtier immobilier, on rembourse l'ancienne hypothèque. Des fois, on paye des taxes en retard. Donc, il y a une gestion en fiducie aussi à faire.
Fait que tu sais, il peut avoir 4, 5, 6 chèques ou 4, 5, 6 virements, mais tu sais, on le sait, on fait des virements, on est facturé. Les notaires, pareil, là, c'est pas gratuit non plus. Oui. Là.
Mais là, c'est trop facile. On parle de transactions standard. Si tu nous parles de condos maintenant.
Ah ouais,
tout ce que ça implique de plus.
C'est
au
sûr
niveau
que
des condos.
Les condos, là, c'est une couche de plus. Fait que, souvent, les clients se posent la question, pourquoi ça coûte plus cher de notaire acheter un condo qu'acheter une maison unifamiliale? C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de démarches à faire. De un, tantôt, je parlais de l'examen des titres. Sur un condo, l'examen des titres, là, ça peut prendre 4 fois plus de temps. Parce que tu as les parties communes, tu as le condo en tant que tel qui est la partie privative. Donc, c'est plus complexe. Tu as le syndicat de copropriété. Il faut que tu communiques avec le syndicat de copropriété. Il faut que tu vérifies s'il est conforme.
Puis là, tu sais, tu as la déclaration de copropriété avec toutes les parties communes puis toutes les parties privatives où ce que tu dois lire avec les règlements. Puis après ça, ben, tu sais, oui, tu communiques avec le syndicat. Encore faut-il qu'il réponde.
Oui. Oui.
Ça l'arrive, ça. Tu sais, puis qu'on a de la difficulté. Nous, à titre de courtier immobilier, là, on dit c'est qui le président? Ah, ben, c'est lui qui habite en haut. As-tu les coordonnées? Là, oui, OK, j'ai les coordonnées. J'ai envoyé un courriel, mais lui, il travaille à temps plein. Il est à l'extérieur. Tu sais, il fait ça quand il y a du temps. Puis souvent, le temps, c'est les 10 minutes avant la rencontre, la prochaine rencontre. Là, tu sais, c'est souvent là qu'il y a du temps pour le faire.
Je dirais que la seule façon, nous, qu'on a de mettre un petit peu plus de pression, là, c'est que dans les cas de syndicats, dans le fond, qui ne collaborent pas, c'est qu'on va mettre, dans le fond, dans la loi, c'est prévu, là, mais on le remet dans nos documents, que s'ils ne nous répondent pas dans un délai X, puis souvent c'est comme 10 jours, bien, si jamais il y avait des arrérages au niveau des frais de condo, admettons que ça fait 6 mois là, que ton vendeur ne paye plus ses frais de condo, ben en fait, c'est que s'ils ne répondent pas dans les délais, ben, ils perdent leur droit de recours. Ils ne pourront pas revenir contre l'acheteur. Okay. Pour se faire payer. Fait que, ça, c'est quand même important. Là, mais oui, c'est beaucoup plus complexe un condo. On vérifie les assurances. Le fameux certificat d'égalisation dont on parlait tantôt, là, c'est beaucoup plus compliqué sur une copropriété.
Parce qu'il y en a deux?
Il en existe deux types, effectivement. Il y a le certificat sur partie privative, qui est vraiment le certificat, c'est comme si on prenait une photo du condo en tant que tel. Fait que c'est un certificat de quatre murs. Puis il y a le certificat, tant qu'à moi, qui est beaucoup plus pertinent, qui est sur partie commune. Donc, on va voir, dans le fond, le bâtiment, on va voir le terrain. Parce qu'on s'entend qu'au niveau des irrégularités, c'est plus sur le terrain qu'on risque de voir quelque chose que sur le bâtiment. Quoique, on a déjà vu des copropriétés qui ont été bâties à l'envers. Là. C'est déjà arrivé que les parties communes y avaient été inversées avec les parties privatives. Puis, sans certificat de localisation, on ne l'aurait jamais vu. Là. Mais c'est beaucoup plus rare. Là. Fait que c'est beaucoup plus de job, surtout s'il faut commencer à gérer des irrégularités au niveau du certificat, au niveau du syndicat. C'est plus complexe, là, un condo.
Puis au-delà de ça, c'est que deux nouvelles lois qui ont été mises en application, que là, on est en train de régulariser de beaucoup les copropriétés. On doit arriver pas mal sur la fin, par exemple. Là. Mais il y a la loi 16 puis la loi 141. Je veux pas mélanger une et l'autre, là, mais de mémoire, la loi 16, c'est la loi du fonds d'auto-assurance, qui veut dire que on habite dans un condo, notre franchise la plus élevée pour des godots est à 5 000 $. Ben, on doit avoir 5 000 $ liquide dans un compte pour s'assurer que s'il arrive un sinistre, puis qu'on a besoin d'avoir le 5 000 $, qu'on ne soit pas obligé de demander une cotisation spéciale au copropriétaire, mais déjà d'avoir l'argent disponible pour payer le sinistre. Parce que là, on ne peut pas attendre que quelqu'un se finance dans 6 mois pour pouvoir régler le problème. Le problème est maintenant. Oui. Fait que ça, c'est quand même très bien que ça soit là. Mais dans des gros complexes, le fonds d'auto-assurance peut être de 100, 200, 300 000. Là. Fait que tu sais, il faut s'assurer d'avoir la franchise suffisante. Fait que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose, c'est la loi 141 qui demande une étude du fonds de prévoyance, ce qui veut dire que généralement, ils vont prévoir, par exemple, la durée de vie des composantes du bâtiment pour les 50 prochaines années, mais ils vont le reconduire seulement aux 5 prochaines années. Puis ils vont dire, bien, sur les 5 prochaines années, vous allez avoir, admettons, 125 000 d'entretien à mettre sur ou d'entretien réparation à faire sur l'immeuble. On va le répartir sur 5 ans qui fait 25 000. Vous êtes tant d'unités, bien maintenant, séparez-vous à facture. Fait que comme ça, on vient qu'à régulariser la copropriété pour faire en sorte qu'on ne gère pas nos copropriétés en cotisation spéciale, parce qu'au Québec, c'était vraiment géré en cotisation spéciale seulement. C'est géré en bon voisinage. On fait tout de notre mieux. Les entrepreneurs aussi, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'est de vendre des unités avec les frais de condo le moins cher possible pour attirer le plus grand nombre de personnes. Par contre, arrive dans le premier 5 ans, c'est pas grave. Tout est garanti, tout est là. Il n'y aura pas rien qui va sortir dans le premier 5 ans. Mais après ça, c'est à cause qu'il y a un manque à gagner, à prendre, puis que là, par exemple, les copropriétaires en place se font ramasser parce qu'ils doivent se mettre à jour. Puis, tu sais, ça coûte cher, ça coûte énormément cher, se mettre à jour, là.
C'est clair. Bon. Est-ce que vous avez un devoir, justement, de ce côté-là, de vérifier ça, ce qui est fonds de prévoyance, auto-assurance, ou c'est vraiment juste pour la saine gestion à l'interne du syndic?
C'est plus pour la saine gestion, là. Tu sais, nous, de notre côté, les notaires, on n'est pas non plus des experts en finance, là. Ouais. Donc, tu sais, nous autres, on vérifie les couvertures d'assurance sur le bâtiment, dans le cas d'un condo, mais au niveau des montants qu'il y a dans le fonds de prévoyance puis dans le compte opération de la copropriété.
C'est un devoir du client et de son courtier.
Ça fait partie des vérifications à faire avant achat. Oui.
Mais tu sais, il y a aussi le syndicat, le gestionnaire du syndicat qui, lui, doit répondre à un questionnaire. Oui. Là, parce que, tu sais, d'un autre côté, c'est que le notaire doit faire des vérifications avec les documents qui lui sont fournis. Là. Fait que, tu sais, ces vérifications, s'ils sont faits avec des documents où ce que tout est beau, puis que finalement, il y a des informations qui n'ont pas été données au notaire, tu sais, ça ne sera pas nécessairement de ta faute parce que la documentation n'avait pas été donnée ou les informations n'avaient pas été données. Fait que, tu sais, on n'achète pas un condo de la même façon qu'une maison unifamiliale, puis c'est important de faire des vérifications. D'où l'importance toujours des certificats de localisation, s'assurer d'être sharp là-dessus, de s'assurer de lire les procès-verbaux parce que c'est pas juste les deux derniers procès-verbaux que tu veux savoir, là. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, là. Parce que ça se peut que dans ta déclaration de copropriété, ça soit indiqué que les animaux domestiques, que les animaux domestiques soient autorisés. Mais ça se peut qu'il y ait un règlement plus tard qui vienne dire, ben écoute, c'est les moins de 20 livres. Ça existe, ça aussi, là. Ouais. Ça se peut que le barbecue soit autorisé dans la déclaration de copropriété, mais que tu arrives sur place puis ils disent non, pas le charbon, par exemple. Tu sais, ouais. Ça existe des situations comme ça. Fait que tu sais, il faut voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis malheureusement, tu sais, ils n'ont pas un registre de toutes les résolutions de qu'est-ce qui a été pris dans les différentes décisions. Fait que tu sais, tu es obligé de lire vraiment longtemps l'historique pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la copropriété. Puis souvent, tu te fies au bon vouloir de la personne qui te donne l'information parce que tu n'as pas d'autre chose que ça.
C'est ça, dans le fond, on comprend que ce bout-là, c'est pas le notaire. Fait qu'il faut pas que les gens se disent, bon, ben, la paperasse d'une transaction, c'est le notaire, donc tout ce qui pourrait découler après, ben, ça va retomber sur lui s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont un bon devoir quand même.
Moi, je pose tout le temps la question à mes acheteurs, est-ce que vous avez vu la déclaration de copropriété? Oui, non, peut-être. Ben, ça serait peut-être important. T'sais, moi, je leur dis, je la regarde. Je regarde sommairement au niveau des règlements s'il n'y a pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux qui est vraiment différent d'ailleurs. Mais sinon, c'est quand même aux acheteurs de regarder avant. Puis normalement, le vendeur doit remettre une copie conforme de la déclaration de copropriété. Ça fait partie du document à vérifier avant de faire un offre d'achat.
Puis arrive la rencontre client, signature de l'hypothèque, parce que généralement, il y a un premier rendez-vous pour les acheteurs qui est pour la signature d'hypothèque. Vous avez reçu préalablement les conditions de l'institution financière, ça va être quoi, les termes et conditions de l'emprunt, etc. Puis, tu sais, vous devez vulgariser les termes bancaires à un acheteur d'un document souvent de 20 pages, mais il y en a aussi de 65 pages. Mm-hmm. Fait que, tu sais, vous devez lire les petites lignes, justement, là. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, c'est pas notre action préférée là, de dire hey, waouh, je m'en vais signer mon hypothèque. Oui, l'action est le fun parce que tu achètes quelque chose, mais le lire, eh, pas l'aille.
Ben, nous autres, on est dans le domaine, là, mais moi, quand j'ai acheté les deux maisons avec ma blonde, là, c'était un mal de tête presque dans l'auto avant d'arriver, là, dans le sens que tu sais, c'est quand même lourd. Là, si tu gravites pas là-dedans tous les jours, l'acte hypothécaire, c'est quand même un bon document à lire. Puis qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les garanties et tout?
C'est parce que l'acte hypothécaire en tant que tel, au niveau des conditions bancaires, les gens, là, quand ils viennent chez le notaire, là, ils ont déjà choisi leur institution financière. Ils savent qu'ils ont emprunté pendant 5 ans un taux fixe de 2,99. Fait que toutes les modalités bancaires, les paiements, puis c'est-tu à la semaine, aux deux semaines, au mois, c'est vraiment avec la banque. Que ça va être décidé. Quand tu arrives chez le notaire, dans le fond, là, nous, notre job, là, c'est quoi tes obligations légales? Donc, mis à part le fait qu'il faut que tu payes ton fameux prêt hypothécaire à chaque deux semaines, donc l'argent va passer dans ton compte, c'est quoi tes obligations légales? Puis c'est là qu'on t'explique, ben écoute, il faut que tu gardes tes taxes à jour parce que si jamais tu ne payes pas tes taxes, ça se peut que la ville vienne rechercher ta maison. Il faut que tu assures ta propriété tout le long du temps que tu as un prêt hypothécaire en vigueur parce que si jamais l'immeuble passe au feu, ben dans le fond, le chèque, c'est pas à toi qui va, c'est à ton institution financière. Fait que c'est tous ces aspects-là. T'sais, qu'est-ce qui arrive si tu ne payes pas ton prêt hypothécaire? C'est quoi les recours que ta banque a sur ta propriété? C'est quoi les différents impacts que la loi de l'environnement peut avoir, que le fait que tu fasses des travaux sur ta propriété peut avoir sur un prêt hypothécaire? Donc, c'est ça que nous, on explique. Puis souvent, les gens ressortent de notre bureau, puis ils vont faire comme, OK, t'sais, je m'attendais pas à ça. Des fois, ça peut faire peur. Puis t'sais, quand c'est des premiers acheteurs, c'est une première maison, t'sais, je vais leur dire, là, ça va avoir l'air épeurant, mais je pourrais vous résumer ça en vous disant, si vous faites vos paiements, tout va bien aller. Mais il faut quand même que je vous explique c'est quoi, dans le fond, les conséquences. Puis souvent, je vais revoir les mêmes clients 3, 4, 5 ans après parce que là, il faut refinancer, donc il faut réhypothéquer. Si on change d'institution financière, on repart chez le notaire. Donc, on réexplique l'acte hypothécaire. Puis il y a plein de choses qu'ils ne se souvenaient pas de 3, 4, 5 ans que je leur réapprends. Là.
Puis est-ce qu'on peut négocier ces termes et conditions-là ou c'est vraiment l'obligation de la banque qui te donne un acte de c'est ton acte d'hypothèque. Je te donne un exemple, là, ça parle au niveau de défaut que si dans 30 jours, tu n'as pas fait ça, etc., etc., puis je donne un... C'est peut-être même pas à propos. Est-ce que moi, je pourrais négocier à ce moment-là puis dire, moi, je veux 60 jours, pas 30 jours?
Non, pas du tout. Dans le fond, là, l'hypothèque, là, c'est ce qu'on pourrait qualifier... La loi appelle ça un contrat d'adhésion, là, ce qui veut dire que c'est ça ou c'est rien.
OK, ouais. Parfait.
Tu peux négocier tes conditions bancaires, ça te tente. Tu peux négocier ton
taux d'intérêt. Avant que ça tombe sur ton bureau à toi.
Tu peux négocier, je veux une remise en argent. Tu peux négocier, je veux du 2,79 au lieu du 2,99.
Mais ton contrôle légal, non.
Pas du tout. T'sais, tu ne peux pas dire à ta banque, moi, parfait, j'emprunte, juste si vous me dites que je ne suis pas obligée d'assurer ma maison. Non, ça ne marche pas comme ça.
OK, je trouve ça quand même intéressant. Là, c'est une information que je ne connaissais pas. Puis arrive la deuxième rencontre, l'acte de vente. Acheteur-vendeur, en signature électronique ou en personne. Échange de clés ou non en personne.
Ou lockbox.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tout ça arrive en même temps. Puis, tu sais, généralement, ça va quand même bien. Tu sais, on a eu quand même plusieurs actes de vente ensemble. C'est pas nécessairement, là, une lecture littérale du texte. Là, tu sais, c'est souvent une vulgarisation des différents paragraphes. Dans les
paragraphes. Ça dépend des notaires. Oui. J'ai déjà eu une lecture très, très formelle.
Ouais.
C'était quelque chose. C'était une expérience.
Puis oui, puis tu fais comme, Pareil. Mais tu sais, d'avoir aussi un certain dynamisme, de venir résumer, puis regarder ça ici, c'est un point vraiment important, puis on va prendre le temps de le lire correctement, complètement, pour être sûr que vous comprenez. Oui, vous comprenez, parfait. Puis on descend là, il y a des conventions d'indivision qui sont mises pour les acheteurs. J'ai mis plus d'argent, pas d'argent, etc. On vient mentionner justement la taxe de mutation là, qui est inclue sur ça, les déclarations du vendeur, les obligations de l'acheteur, c'est souvent les amendements qu'on voit. Je ne l'ai pas mis dans la même structure que l'acte, là, la garantie qu'on vient voir aussi. Est-ce que c'est vendu avec garantie, sans garantie, au risque et péril ou non de l'acheteur, etc. Fait que, tu sais, il y a quand même 9 types de garanties légales. Là, il y a garantie légale de qualité, il y a sans garantie légale de qualité, avec risque et péril,
juste assez
etc.
pour mélanger comme il faut tout le monde.
mais tu sais, puis c'est pas évident pour vrai de voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a l'avant-contrat qui est la promesse d'achat qui n'est pas non plus brochée sur ton acte de vente. Fait que tu sais, on vient souvent mentionner que tous les avant-contrats font partie intégrante de l'acte de vente, etc. Là, tu sais, j'y vais de mémoire, là. Ça fait longtemps que je suis allé, mais
c'est parfait.
T'es bon. Je suis quand même là. On vient de désigner le lot, hein, tu sais. Ça, oui. C'est super important. Les professions ont été enlevées. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Quand j'avais parlé avec des gens, ils disaient qu'il y a eu une certaine époque où ce que les gens regardaient, qu'est-ce que les professions des gens faisaient. Pourquoi?
Ah ouais.
Parce que des policiers se faisaient watcher par le crime organisé. C'est fou, hein? Fait que là, tu sais, les professions se sont faites retirer de ça. Fait que, tu sais, sont pris à l'interne, je pense, dans vos vérifications même d'identité. Pas. Même pas.
On prend même plus ça, non.
Puis, par la suite, ben, tu sais, il y a des obligations de l'acheteur qui sont mentionnées sur l'acte de vente que l'acheteur n'a pas fait, dont deux éléments qu'on a parlé, les assurances. On dit, écoute, les assurances sont là, que l'usage que l'acheteur va en faire a été vérifié. La réalité, là, à 99% des transactions, aucun courtier immobilier a parlé à son client de faire la vérification si Solange peut avoir son salon de coiffure. Ouais. Tu sais, puis j'exagère avec ça, mais le comptable,
on voit bien.
Tu sais, Serge avec le comptable ou peu importe ce que c'est, ils font pas, je vais avoir un chenil, c'est pas vérifié. Nous, d'emblée, on le mettait sur chacune des promesses d'achat, puis je trouve que c'est juste normal de le faire. Puis généralement, on le fait pas. Tu sais, dans nos offres d'achat, on demandait à notre acheteur de refaire une visite de l'immeuble. Tu achètes une maison de 300 000, prendons à peine d'aller la voir deux fois.
Ben oui. Ben oui, c'est clair. Parce qu'encore là, le zonage ou l'usage, vous pouvez vérifier si actuellement il est conforme.
Oui.
Mais ce qui est du projet du client ou ce qu'il veut faire avec la maison,
puis ça va être
tout de votre ressort de s'assurer que ça va dans le bon.
Puis ça va être, tu sais, puis il veut rajouter une piscine creusée, il peut-tu? Il veut fermer son abri d'auto, il peut-tu? Mais tu sais, c'est tous des éléments qu'on pense. Il veut rajouter un étage, il peut-tu? Personne fait ces vérifications-là. Puis le notaire, lui, va constater ça sur le certificat de localisation qui dit l'immeuble est situé dans telle zone, que l'implantation est conforme, que l'immeuble est conforme, qu'il n'y a pas de servitude de vue ou de problème de vue ou de titre ou peu importe qu'est-ce que c'est. Mais tabarouette, c'est des implications importantes pour les acheteurs de faire ça. Puis on signe un document par la suite qui dit « Ben oui, c'était dans mes obligations, je les ai checkées. » Ben après ça, ça devient difficile de dire « Ah, mais tu m'as vendu quelque chose qui ne marchait pas. » Ben, tabarouette, tu as décidé de ne pas le checker.
Puis si on finit avec ça, c'est-tu la sauce magique, là, l'assurance-titre? Est-ce que ça règle tous les problèmes? Ça met un plasteur sur tout?
La fameuse assurance-titre, là, c'est... moi, j'ai toujours imagé ça à mes clients en disant que c'est un plasteur sur un bobo. Tu sais, comme les parents font, là, quand nos enfants se font bobo, on met un plasteur, ils le voient plus.
Il y a des petits bobos qui guérissent, les plus gros.
Ils le voient plus, fait que tout est beau, ça n'existe plus, tu sais, ça règle tout. La réalité, là, c'est que l'assurance-titre va s'appliquer pour une situation, pour une période X. Fait que, tu sais, Kevin, toi, t'achètes un immeuble, il y a un problème, peu importe, le muret, il empiète chez le voisin. Toi, tu dis, on accepte ça comme ça. Par contre, tu sais, je veux pas avoir de problème, fait qu'on prend une assurance-titre. Fait qu'on assure la problématique. Fait que si jamais tu te fais exiger par la ville ou par le voisin de déplacer ton muret, ben en fait, tu as l'assureur, la compagnie d'assurance-titre qui va venir te dédommager pour les travaux. Sauf que la problématique de l'assurance-titre, c'est que si toi, tu revends, ben l'assurance-titre est plus bonne parce que l'assurance couvrait Kevin et le prêteur hypothécaire aussi. Fait que si Kevin faisait affaire avec Banque Nationale à ce moment-là, si un jour Kevin change de Banque Nationale à Banque TD, bien, l'assurance-titre n'est plus bonne. Donc, il faut repayer une autre assurance-titre pour le prêteur hypothécaire seulement. Fait que oui, c'est un peu moins cher, mais il faut quand même en repayer une. Puis le jour où est-ce que Kevin vend à Jeff le même immeuble, la problématique ressort. Parce que dans le fond, ton certificat de localisation, il met encore la même problématique. Ton muret, il n'est encore pas conforme. Il n'a pas bougé pendant la nuit.
Ouais.
Fait que ton assurance-titre, elle ne sert plus à rien. Fait que soit tu corriges, soit il faut reprendre une nouvelle
un autre plasteur.
Les notaires, on ne tripe pas tant sur les plasteurs. On aime mieux quand
c'est... ça, mais il y en a qui le proposent d'office. Tu disais tantôt, des fois, ça régularise ou ça permet une transition.
Tu as un certificat de localisation 3 heures avant une transaction, puis que ce n'est pas trop complexe, tu peux le proposer. Par contre, ce qui est super important de mentionner à ton acheteur, c'est justement l'image que j'ai donnée.
Ouais.
Ce n'est pas un correctif.
C'est pas blindé.
On fait signer une limitation de mandat. T'sais, moi, je fais signer dans mes dossiers. Si jamais tu revends, si jamais tu changes d'institution financière, tu vas être obligé soit de corriger ou de reprendre une assurance.
Ça se peut que ton deuxième prêteur veut que ce soit corrigé. Parce que, tu sais, ça ne veut pas dire nécessairement parce que tu payes une assurance titre que tout le monde va cautionner ton assurance titre plus tard aussi. Là. Puis, tu sais, ça peut changer, ça peut évoluer au fil du temps. Fait qu'il y a quand même des informations vraiment importantes. Puis, tu sais, oui, l'assurance titre vient sécuriser un peu la transaction, mais ça ne règle absolument rien. Tu sais, le bobo, va falloir qu'il soit corrigé à un moment donné. Ouais. Puis, tu sais, des Advil, c'est pas suffisant.
On a fait le tour de la métaphore.
Fait que... Puis, Jesse, si jamais on veut avoir des informations, par exemple, sur le droit notarial ou qu'on veut s'informer un peu sur comment ça marche, y a-tu des sites pour le public qui peuvent consulter là, pour peut-être poser des questions, avoir accès à un registre de notaire, etc.?
Ben, en fait, il y a le site de la Chambre des notaires qui est quand même qui donne l'information. Là, c'est sûr que c'est un survol, mais qui va donner quand même l'information neutre à la clientèle. Il y a un numéro de téléphone là, qui est un 800 notaire. Puis sur le site de la Chambre des notaires, ben, en fait, on peut chercher aussi des notaires par région ou par spécialité. Donc, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas de notaire, ben, peut aller consulter le site de la Chambre puis va avoir l'information là, qu'il cherche.
Si jamais, pour X raison, il y a des situations problématiques avec le droit notarial, avec un acte de vente, quoi que ce soit, c'est un ordre professionnel, ils sont là pour protéger le public aussi. Effectivement, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs informations sur leur site. C'est vraiment intéressant aussi. Jesse, c'était un réel plaisir de te recevoir. Ça va vraiment trop vite dans nos émissions. Surtout quand les sujets nous intéressent aussi. Là, ouais. On va se le dire. Quand
c'est dans la pratique. Là.
Exact. Mm-hmm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.